Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, des histoires, des contes, des légendes, des blagues, des nouvelles. Toutes sortes de récits. Et aujourd'hui, pour Compte à rebours, c'est le retour. La rentrée, quoi. Hein, c'est la rentrée. Et pour commencer joyeusement, eh bien, des histoires de cimetière. Oui, en fait, j'avais commencé avant l'été à vous conter de contes tirés d'un livre qui s'appelle « Contes mystérieux du Quercy » ou « Contes mystérieux del Quercy » par Michel Jacquet. Et puis, je me suis dit, autant continuer sur la lancée, on est dans le Quercy, restons-y. Et puis là, ce sont des histoires un peu de cimetière. Alors, avez-vous peur ? Dans un cimetière. Comme le dit un des personnages de l'histoire, les vivants sont plus à craindre que les morts. Alors, de quoi avons-nous peur ? Et de la mort, tout simplement. Voilà pourquoi la fréquentation des cimetières est recommandée. Elle nous apprivoise à l'idée de la mort. Au fond, on n'a rien à craindre, sauf ses propres peurs, qui peuvent être redoutables, comme vont l'illustrer ces histoires. La première, c'est la croix de bois du cimetière. Il ne faut jamais se moquer des pauvres morts, et je vais vous en donner la preuve. Dans un village du Quercy, vivaient quatre jeunes mécréants qui n'aimaient guère le travail et se réunissaient au café chaque samedi après le dîner pour jouer aux cartes et boire à l'excès du vin et de l'alcool. Vers 10 heures du soir, l'un de ces escogriffes, celui qui semblait le meneur de cette bande, s'adressa à ses compagnons. « Mes amis, vous affirmez tous que vous ne croyez pas en Dieu, pas plus qu'au diable. » et que vous pensez tout expliquer par votre seule raison. Néanmoins, je suis sûr qu'il reste encore, même profondément caché dans votre esprit, quelques restes de croyances ou de superstitions. Les trois autres protestèrent et dirent qu'ils avaient abandonné toute forme de pratique religieuse. Alors, insista le meneur, je vous propose un pari. J'accepterai de donner un bel écu d'or à celui qui se montrera assez audacieux pour entrer à minuit dans le cimetière de notre village et marcher jusqu'à son milieu. Ce soir, c'est une nuit de pleine lune. Lequel d'entre vous serait assez hardi pour relever un tel défi ? Bien qu'il fût ce fanfaron et bavard, les trois gueux tremblèrent tout d'abord en raison de la peur que suscitait un lieu aussi impressionnant qu'un cimetière, surtout à l'heure de minuit. Cependant, au bout d'un moment, l'un d'entre eux, que nous appellerons Joachim, fut alléché par l'idée de gagner un peu d'argent et répondit « Je suis convaincu que les vivants sont plus dangereux que les morts. » Comment ceux qui reposent dans des cercueils bien cloués pourraient-ils nuire à quelqu'un d'autre ? Si vous voulez, cette nuit même, vous verrez que je n'ai pas peur d'entrer dans un cimetière. « Nous te connaissons bien, » persifla le meneur. « Tu serais bien assez rusé pour feindre d'entrer dans le cimetière alors que tu te reposerais tranquillement bien caché chez toi. Pour te donner un écu, il me faudrait une preuve incontestable de ton exploit. Il me vient une idée. » Tu prendras avec toi un marteau, un clou et un mouchoir blanc. Tu marcheras jusqu'au milieu du cimetière où une grande croix de bois s'élève au-dessus du tombeau des prêtres. Dès que tu seras près de cette croix, tu cloueras avec le marteau le mouchoir blanc sur la croix de bois. Demain matin, Je vérifierai moi-même si tu as vraiment tenu parole. Si je vois le mouchoir dûment cloué à la croix, je te donnerai sans hésiter la pièce d'or que je t'ai promise. Au premier coup de minuit, Joachim saisit le marteau et le clou de sa main droite, enfouit le mouchoir dans sa poche et se mit en route vers le cimetière. Il titubait, à demi ivre pour avoir trop bu. Comme il commençait à faire frais, il avait noué une écharpe autour de son cou. Un large portail de fer fermait l'entrée du cimetière. Joachim l'ouvrit précautionneusement pour éviter tout bruit qui n'aurait pas manqué d'éveiller les voisins. Après le portail, une allée menait directement au tombeau des prêtres. Au clair de lune, les tombes reflétaient une clarté effrayante. Les cyprès, plantés le long des allées, dressaient leurs colonnes obscures vers le ciel et allongeaient des ombres menaçantes sous les rayons de lune. Malgré l'ivresse et ses fanfaronnades, Joachim commença à trembler. Avec sa manche, il essuyait sans cesse des perles de sueur qui baignaient son front. Il se dépêchait autant qu'il le pouvait sans regarder, ni à droite, ni à gauche. Il atteignit finalement un grand tombeau, surplombé par une énorme croix de bois. C'était là que les anciens prêtres de la paroisse étaient ensevelis. Comme l'écharpe le gênait, il la rejeta prestement sur son épaule. Il retira le mouchoir blanc de sa poche, l'appuya contre le bois de la croix avec sa main gauche et le cloua rapidement en frappant avec le marteau qu'il tenait dans sa main droite. Fier d'avoir accompli cette triste tâche, Joachim s'exclama « Je préfère le travail fait à celui qui reste à faire. Maintenant, je vous dis au revoir. » Mes chers amis trépassés, soyez bien tranquilles et pardonnez-moi de ne pas pouvoir rester plus longtemps en votre honorable et agréable compagnie, car des affaires urgentes m'appellent ailleurs. » Après avoir prononcé ces paroles insolentes, Joachim se retourna pour s'en aller. Dès le premier pas, il sentit que quelque chose le tirait en arrière et en lui serrant le cou comme pour l'étrangler. Aussitôt, l'épouvante lui glaça le sang. Ses cheveux se hérissaient sur sa tête et dans sa poitrine, son cœur battait à se rompre. Rapidement, l'effroi devint vraiment insupportable. Ses yeux s'embrumèrent, tout devint noir et le jeune homme tomba face contre terre. Pendant ce temps, les compagnons de Joachim qui avait fini de boire, l'attendait, impatiemment. Enfin, le patron ferma les portes du café. Mais le jeune homme ne revenait pas. C'est quelque peu anxieux que chacun rentra chez soi. Le lendemain matin, personne n'avait revu Joachim. Les trois compagnons se réunirent et décidèrent de profiter de la lumière du soleil pour entrer dans le cimetière et voir ce qui s'était réellement passé. Ils allèrent jusqu'au tombeau des prêtres où une frayeur les saisit. Ils aperçurent le corps raidi de Joachim qui gisait mort sur la dalle de marbre. Sans s'en douter, Joachim avait cloué tout à la fois sur le bois de la croix le mouchoir blanc, mais aussi l'écharpe qu'il portait autour de son cou. Dès qu'il s'était retourné pour fuir ce lieu sinistre, l'écharpe retenue par le clou lui serra si fort le cou qu'il lui sembla que quelque chose allait l'étrangler. Affolé comme il était, il fut persuadé que mort était sorti de terre pour le saisir et se venger. Il tira d'autant plus fort pour s'échapper, précipitant ainsi sa mort pitoyable. Seule, sa terreur l'avait tuée. Le texte du conte conclut très moralement. Sans ajouter un seul mot, les trois jeunes hommes rentrèrent silencieusement chez eux en songeant tristement aux châtiments que de mauvais comportements peuvent causer. Ils se jurèrent d'éviter les lieux de débauche, de cesser de boire et de jouer, mais au contraire de se dédier au travail et au service du prochain, en renonçant à la vie désordonnée qu'ils avaient menée jusqu'à ce jour. Bon, un peu de morale, ça peut faire du bien. Mais cette histoire dit bien plus que ces platitudes. Ne sommes-nous pas tous étranglés par nos peurs? L'anneau de la morte. Dans les cimetières du Quercy, les familles les plus aisées bâtissaient de très grands tombeaux qui ressemblaient à des chapelles. À l'intérieur se dressait une sorte d'autel dominé par une croix. Au-dessous, les cercueils étaient déposés dans une excavation. Ces imitations de chapelles étaient fermées par une porte de fer forgé, parfois finement ouvragée et verrouillée par une serrure. Au début du XXe siècle, une dame, riche, élégante et encore jeune, fut affectée par une fièvre ardente. Les médecins tentèrent de la soigner. Malheureusement, tout les remèdes échouèrent, de sorte que son état empirait d'heure en heure. Au bout de quelques jours, la malade ne bougeait plus. Sa respiration ne faisait plus aucun bruit, puis son cœur cessa de battre et le médecin en conclut qu'elle était décédée. On revêtit la dame de sa plus belle robe. On la para de ses bijoux les plus brillants, un collier, des bracelets, des pendants d'oreilles, mais surtout, on passa à son doigt un énorme anneau d'or, délicatement décoré de diamants éblouissants. Les amis vinrent rendre visite à la famille et présenter leurs condoléances. Les voisines assistèrent à la veillée mortuaire pour prier et pleurer bruyamment. Et le matin suivant, le corps fut placé dans un cercueil fait d'un bois précieux. On cloua un couvercle orné d'une croix d'argent ciselée et on célébra un enterrement de première classe. Il fut suivi par toute la population de la ville et toutes les dames vêtues de noir. Il y eut une messe, des chants funèbres, des nuées d'encens et des flots d'eau bénite. Finalement, les fossoyeurs placèrent le cercueil sous l'autel du tombeau qui était la plus jolie petite chapelle de l'endroit. La porte de fer fut verrouillée avec un cadenas. Après la cérémonie, la foule des fidèles se dispersa pour regagner ses foyers. À l'époque, les voleurs connaissaient bien les habitudes des riches qui se faisaient ensevelir avec des objets précieux. C'est pourquoi un mécréant décida d'entrer dans le tombeau pour voler les bijoux de la morte dans le but de les revendre par la suite dans une ville éloignée pour qu'on ne le sût pas. À minuit, ce pillard entra en cachette dans le cimetière, marcha jusqu'au tombeau, chercha le cadenas en tâtonnant, le cisailla, ouvrit la porte et se faufila dans la petite chapelle. Il eut au fait de déclouer le couvercle du cercueil et commença à prendre tous les bijoux que portait la défunte, les colliers, les bracelets et les pendants d'oreilles. Mais l'anneau d'or était bien serré autour du doigt. Mais c'était cet anneau qui était le plus précieux, et le voleur le voulait à tout prix. Après un quart d'heure d'effort, il lui sembla que le doigt de la malheureuse avait légèrement bougé. Surpris, et un peu inquiet, il observa le fin visage dont les paupières étaient sur le point de s'entrouvrir. Brusquement, les yeux de la morte s'ouvrirent en grand et brillèrent d'un éclat qui semblait surnaturel. Le voleur, épouvanté, tremblait de tous ses membres et sentit que son sang se glaçait. Ses cheveux se hérissaient sur sa tête et une sueur glaciale baignait tout son corps. À ce moment, la morte se leva et s'assit. Terrorisé, le voleur s'enfuit à toutes jambes, hurlant comme un damné. On dit que de sa vie, il n'a plus jamais osé approcher un cimetière, persuadé qu'il était d'avoir commis un horrible sacrilège. En fait, la dame n'était pas vraiment morte. Contrairement aux apparences, elle s'était seulement endormie d'un sommeil cataleptique que le médecin, en dépit de sa science, n'avait pas su diagnostiquer. Elle fut réveillée par les efforts du voleur qui tenta d'arracher l'anneau. En vérité, il avait sauvé une enterrée vivante. bien sûr à l'accordéon Cyril Brotteau et qui jouait cet air traditionnel du Quercy. Pour conclure légèrement quand même toutes ces histoires mystérieuses qui ne nous font peur que pour nous apprendre quelque chose. Et ne gardons pas l'esprit pour autant morose. Voilà, donc c'est fini. Alors, les histoires, contes mystérieux du Quercy de Michel Jacquet, dans les éditions en occitan et français. Donc, ça se retrouve à la bibliothèque de Caylus, par exemple. Vous pouvez le prendre. C'est publié par le conseil départemental du Tarn-et-Garonne. Et puis les musiques, alors on y reviendra d'ailleurs à ce livre, puisque la semaine prochaine j'aurai encore deux histoires pour conclure. Et les musiques, c'était Christian Vieussens, la plupart des musiques. C'était Christian Vieussens qui est un musicien plutôt vers là-bas, la Genêt, le Bordelais, mais qui joue des musiques magnifiques, bref. Voilà, n'hésitez pas à aller l'écouter ou écouter ses disques. Eh bien, compte à rebours, c'est fini pour aujourd'hui. C'était Marco, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, ciao. Thank you.